France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien Vous Fasse. La saison des mariages commence et va s'intensifier à mesure que l'été approche. Une fête extraordinaire, censée n'arriver qu'une fois dans sa vie. Une célébration qui met en scène le couple dans toute sa splendeur et sa puissance. Une mise en scène de rêve qui ne coïncide plus avec le début du couple ou de la vie de famille. Et on a l'impression que se marier est plus important qu'être marié, que la fête est plus essentielle que l'institution du mariage. Exemple tiré dans une enquête du Figaro qui raconte ces trentenaires français de plus en plus nombreux à se dire oui à l'américaine, avec des noces qui s'étalent sur 5 jours, un dress code pour les témoins et des créations de contenu destinés aux réseaux sociaux. Plus modestement, comment réussir sa fête de mariage, même avec un budget limité? Quelles sont les erreurs, les impairs à ne pas commettre? Élément de réponse avec la sociologue Florence Maillochon et l'organisateur de salons de mariage Stéphane Seban. Et vous, quels sont vos conseils pour réussir son mariage? Racontez-nous également les meilleures et les pires noces auxquelles vous avez assisté. Guillemette Odissino me regarde en drôle.
J'ai rien dit.
01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France, où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Il faut aussi qu'on parle de la décoration florale.
Ah oui, on se disait, niveau budget, les centres de table en orchidée sont peut-être un peu trop.
Écoutez, moi, baisser le budget, on l'a déjà fait plusieurs fois. Hein. Je suis pas contre essayer encore, c'est pas un problème.
Bah c'est l'idée, ouais. Hein, je vous cache pas.
Bah j'avais un peu compris, je vous cache pas. Mais c'est ce que je dis souvent aux clients, vous avez choisi une salle magnifique. Vous recevez 200 personnes, hein, ça peut pas être n'importe quoi. C'est un mariage, hein, c'est pas une kermesse.
Écoutez, en fait, pour être franc, on a l'impression que vous n'avez pas très envie de nous aider à trouver des solutions, là.
Non. En fait, on trouve que vous n'êtes pas très inventif.
Inventif?
Alors voilà. Alors là, pour le coup, il me vient quelque chose d'assez inventif. On supprime l'entrée, je vous suis là-dessus. Mais on fait aussi l'impasse sur le plat principal. Vous demandez aux gens d'apporter des Tupperware, avec des carottes râpées, des œufs durs. Pour la déco, j'ai une idée, mais alors aussi très très inventive. J'ai ma petite nièce qui fait des guirlandes en crépon orange et vert. Vous pouvez mettre ça sur une table ou alors autour d'une chaise avec des bouts de scotch, ça peut faire un truc joli.
Et vous avez sans doute reconnu le sens de la fête de Nakache et Toledano avec l'inénarrable Jean-Pierre Bacri. Bonjour Florence Maillochon.
Bonjour Aline.
Vous êtes sociologue spécialisée dans l'étude des relations interpersonnelles. Vous êtes directrice de recherche au CNRS et vous avez publié au PUF un ouvrage de référence, La passion du mariage. Bonjour Stéphane Seban.
Bonjour Aline.
Vous êtes le créateur du Salon du mariage qui se tiendra les 13 et 14 septembre à Paris, porte de Versailles. Et bienvenue à Guillemette Odissino qui se moque de moi quand je savonne.
Oui, je suis venue uniquement pour
exactement,
ça.
Exactement, vous êtes chef de rubrique cinéma Télérama et vous êtes chroniqueuse dans cette émission et vous adorez les mariages.
Et j'ai été mariée.
Et vous nous raconterez votre mariage. Et vous évoquerez quelques films qui mettent en scène la fête de mariage. Alors Florence Maillochon, il y a presque 10 ans, je vous ai reçu une première fois pour la sortie de ce livre. En 2014, 230 000 mariages célébrés en France, contre 400 000 en 1970. En 2024, 247 000 mariages célébrés, selon l'INSEE. Que vous inspire cette progression en 10 ans? Rappelons qu'en 2000, 300 000 mariages étaient célébrés en France.
Alors, cette progression est en fait une décroissance, parce que entre 2014 et 2024, il y a eu, comme vous le savez tous, la crise du Covid. Et en 2000, il y a eu une chute drastique du nombre de mariages pour des raisons sanitaires bien connues. Donc, le nombre de mariages était tombé à 150 000. Donc, à l'heure actuelle, il y a un petit rattrapage, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de mariages en 2024, en 2023 et en 2022 qu'il n'y en avait en 2019. Mais en fait, c'est 15 000 de plus en 2022, 15 000 en 2023, 20 000 en 2024. Donc finalement, on n'a pas encore rattrapé les 70 000 mariages qui avaient été perdus en quelque sorte en l'an 2020. Pardon.
Pour vous, c'est une sorte de faux plat?
C'est un faux plat. Et en fait, donc globalement, si on regarde les chiffres depuis 1972, le mariage est en baisse, le nombre de mariages.
Stéphane Seban?
Je suis pas tout à fait d'accord parce que bon, je vois au salon du mariage les futurs mariés venir avec des dates de mariage toujours des années différentes. Et là, effectivement, pour moi, le rattrapage c'était 2022-2023. La 2024, il n'y a pas de raison objective. On n'a pas retenu son mariage pendant 3 ans, sachant que c'était possible de le faire. Je crois qu'on est en train de revenir à une moyenne classique entre 240 et 250 000 mariages en France. C'est ce qu'on a quasiment depuis 20 ans.
Florence Maillochon.
Moi, je me fie sur les statistiques de l'INSEE qui sont fondées sur l'état civil. Donc, on a le nombre à l'unité exacte du nom de mariage. Et vraiment, ça diminue depuis 2000.
Alors, les couples se marient le plus souvent au beau jour.
Alors, peut-être que, oui, en fait, c'est une histoire d'impression et de regard, en fait, de biais cognitif. C'est-à-dire que les statistiques de l'INSEE établissent la vérité en France. Mm-hmm. Mais, en fait, ce qui compte, en fait, c'est les cérémonies de mariage. Mm-hmm. Et, en fait, même si les gens se marient moins, les cérémonies de mariage sont très, très extraordinaires à l'heure actuelle, très visibles, mm-hmm. très, très travaillées. Et donc, en fait, on voit beaucoup de mariages sur les réseaux sociaux, dans la presse, enfin, dans plein d'endroits, on voit beaucoup les mariages, mais il me semble que c'est vraiment une logique particulière, c'est que moins on se marie, plus on fait des fêtes extraordinaires qui occupent l'espace visuel, l'espace social et nos pratiques, parce que comme le nombre d'invités aussi augmente, finalement, on peut être invité à autant de mariages, quelque part, même s'il y en a moins statistiquement.
Stéphane Seban.
Oui, je suis assez d'accord sur le fait que les fêtes de mariage priment sur le mariage en lui-même, et ça se voit d'ailleurs au niveau du budget moyen sur le mariage, puisque on est en perpétuelle augmentation.
C'est quoi le budget moyen d'ailleurs ?
On est aux alentours de 15 000 euros pour l'instant, donc bon, c'est la moitié moins qu'en Angleterre et 4 fois moins qu'aux États-Unis à peu près, donc on a encore du chemin à parcourir, mais on est en vraie progression depuis quelques années.
Alors Florence Maillochon, les couples se marient le plus souvent au beau jour, même si la saisonnalité du mariage a profondément changé au cours du XXe siècle.
Oui, la saisonnalité a changé puisque les mariages étaient beaucoup plus réguliers jusque dans les années 70 et progressivement, et c'est en partie lié à l'expansion des fêtes de mariage, en tout cas à la spectacularisation des fêtes de mariage, elles sont de plus en plus conclues entre mai et septembre avec un pic sur juillet, août, juin et évidemment tous les gros week-ends qui rassemblent beaucoup de monde.
C'est vrai que depuis 1995, plus de 70% des mariages civils sont concentrés donc dans cette période entre mai et septembre, et 2025 ne dérogera pas.
Je ne pense pas.
Guillemette Audicino.
Non, je me posais la question du mois de mai, du mois de Marie, du mois de la Vierge. Est-ce que c'est toujours le cas, bon, évidemment dans les mariages religieux, de ne pas se marier au mois de mai puisque c'est le mois de la Vierge ?
Alors non, en fait, mois de mai est devenu aussi un grand moment de célébration. Il a longtemps résisté, effectivement, pour des raisons religieuses que vous citez. Mais à l'heure actuelle, il y a beaucoup de mariages au mois de mai. C'est le premier mois, je pense que Stéphane pourra confirmer, le premier mois. Et pour une bonne raison aussi, c'est que le nombre de mariages religieux s'est effondré, enfin de mariages religieux catholiques, s'est effondré en France. 33 000 cette année.
L'année dernière. C'est presque rien, oui. Oui, effectivement. Alors moi, ce que je remarque surtout au mois de mai, c'est si vous allez à l'aéroport, quel que soit l'aéroport, Lille-Roissy, vous allez voir des hordes de jeunes filles qui partent en enterrement de vie de jeunes filles. Ça, c'est tout le mois de mai, vous les voyez déguisées.
Quand elles ont les moyens, il faut avoir les moyens pour faire ça.
Non, ils prennent un petit truc EasyJet, ils partent pas très très loin, ça coûte pas super cher et ils font la fête pendant quelques jours. Je sais pas ce qui se passe.
Florence Maillochon.
Là aussi, je pense qu'on a un regard très parisien quand on dit ça. Mais en fait, effectivement, cette nouvelle tradition en fait, de l'enterrement de vie de jeune fille s'est développé quand même plutôt dans les milieux aisés et dans les régions, les cérémonies sont souvent un petit peu plus modestes et pour des raisons financières aussi.
Florence Maillochon, dans votre livre, vous rappelez que se marier est devenu beaucoup plus important qu'être marié. Expliquez-nous la différence.
Alors bon, c'est une formule un peu exagérée peut-être, parce que les gens qui se marient le font évidemment par amour, et c'est vraiment la grande nouveauté, l'invention du XXe siècle de se marier par amour. Mais en tout cas, il n'est plus nécessaire de se marier pour être en couple. Et ça, c'est l'invention des 50 dernières années. C'est-à-dire que même dans les années 70, il fallait quand même se marier pour vivre en couple. Et c'est pour ça que la fête des mariages était certes quelque chose d'important, mais c'était une fête encore encore largement familiale. Alors qu'à l'heure actuelle, c'est une fête conjugale qui marque l'avènement du couple qui existe déjà. Les gens habitent ensemble, les gens ont des enfants ensemble. 60% des enfants qui naissent à l'heure actuelle sont nés de parents non mariés. Donc en fait, c'est quelque chose qui marque la célébration d'un couple qui a déjà montré son existence et sa force.
Stéphane Sebon.
Oui, c'est une confirmation finalement. On vit ensemble depuis longtemps, on a des enfants qui ont entre 5 et 6 ans et on a déjà tout, on partage déjà tout, donc c'est simplement une consécration particulière.
Depuis les années 1990, Florence Maillochon, on assiste à un allongement des préparatifs du mariage. Comment expliquer que ces préparatifs aient pris une importance aussi considérable depuis un quart de siècle dans les années 1990, et vous le rappelez très bien dans votre livre, quand deux futurs mariés annonçaient leurs noces un an avant, cela passait pour une folie auprès des amis et de la famille, et en 2020, un tel délai d'un an pour préparer ses noces, c'est devenu la norme, Florence Maillochon.
Pour voir un peu juste, Stéphane, pour le confirmer. Mais en tout cas, il y a vraiment de nombreuses raisons qui expliquent ce phénomène. La première, c'est que les gens ne sont plus pressés pour se marier, puisque jusque dans les années 70, les mariages venaient souvent aussi cacher une grossesse dans un régime juridique qui n'était pas très favorable aux naissances hors mariage. Mais à l'heure actuelle, ce n'est plus le cas. Et puis surtout, je vous le disais, c'est une fête conjugale, pas une fête familiale, qui doit exprimer le couple qui se marie. Donc il y a tout un effort de spécialisation, de personnalisation, qui prend beaucoup de temps. Et puis, comme c'est un événement important pour des couples qui n'en ont pas besoin, en fait, c'est une fête qui doit rassembler des gens, et en général, il faut aussi prendre du temps pour que tous les convives soient là.
Stéphane Sebon, c'est un peu juste ce délai d'un an pour préparer sa noce ?
Oui, c'est un délai moyen, mais c'est vrai qu'on voit souvent au salon les gens venir avec des projets qui sont à 18-24 mois.
Ah oui ?
Ah oui, tout à fait.
A contrario, ce sont les mariages improvisés à la va-vite qui surprennent Florence Maillochon.
Oui, qui surprennent beaucoup, mais peut-être que ce sera la nouvelle tendance. Parce que là, on est arrivé à un tel stade en fait, de préparation, d'organisation, de charges mentales, financières, que peut-être que le nouveau hype bientôt, ce sera justement de revenir à des formes un peu plus spontanées de fêtes.
On reviendra tout à l'heure sur le rétro-planning avant la noce. Il y a des pages assez éclairantes dans votre livre, Florence Maillochon, et un peu flippantes d'ailleurs sur tout ce qu'il y a à faire pendant cette période où on a normalement le temps de bien préparer les choses, mais il y a une tonne de choses à faire. Et nous accueillons Jean-Laurent Casselli, bonjour.
Vous êtes
essayiste, fondateur du cabinet de tendance Maison Casselli et co-auteur avec Jérôme Fourquet de La France sous nos yeux. Quel est le menu de votre chronique Les Français, mode d'emploi? Vous m'en parlez depuis des mois et des mois de cette thématique.
Oui, c'est un grand moment, Ali, parce que je vais vous parler d'un sujet qui concerne les futurs mariés, mais tous les Français, à savoir la folie des tartinables, ces produits que l'on tartine à l'apéro dînatoire ou peut-être au vin d'honneur. Voilà.
En tout cas, vous avez une reine du tartinable, c'est Guillemette Odissino.
Oui, je l'ai fait moi-même, moi. Je tartine maison, très cher.
Ali Rébéi.
Vous commencez à nous emmerder avec votre mariage, là. Vous pouvez vous paxer, il y a le concubinage aussi, c'est très bien. Hein, l'union libre, c'est super sympa ça, l'union libre, non ?
Sur France Inter.
Retransmis sur écran géant dans Hyde Park, le mariage de Kate et William, selon Scotland Yard, fut un succès populaire. 1 million de personnes. Plus que pour Diana, moins que pour le jubilé de la reine, of course. Une foule bon enfant attendait depuis l'aube le passage des cortèges. À l'intérieur de la cathédrale de Westminster, festival de chapeaux, de jaquettes et d'uniformes pour les invités royaux. Fille de Maharaja des Indes, le comte Spencer, frère de Diana, le chanteur Elton John, mais aussi David et Victoria Beckham et bien d'autres. Que de stratagèmes auront été développés pour dissimuler jusqu'au bout sa splendide robe que l'on dit coûter la bagatelle de 30 000 euros.
Extrait du JT du 29 avril 2011 sur France 2. Comment ne pas rater sa fête de mariage ? C'est notre thème ce matin en compagnie de la sociologue Florence Maillochon avec Stéphane Sebon, organisateur du Salon du mariage avec la journaliste Guillemette Odissino. Stéphane Sebon, chacun quelque part rêve de ce type de mariage à sa mesure, évidemment. De toute façon, ce jour-là, nous sommes un peu les princes Harry et princesse Kate du jour.
Toujours.
Les rois et reines du jour.
Toujours, toujours. Les stars du jour ce sont les mariés, obligatoirement. Oui, on rêve de faste, on rêve de faire rêver les gens, rêver nos invités, les faire nous regarder avec des yeux éblouis.
Elle date de quand, cette tendance de mariage de plus en plus spectaculaire
Je crois que
depuis votre poste d'observation
Je crois que c'est il y a une vingtaine d'années, à peu près. Avant, on se mariait, effectivement, on préparait son mariage beaucoup plus rapidement, hein, dans les 6 mois. Et puis là, maintenant, comme on commence à mettre un an et demi à préparer son mariage, c'est que le mariage prend de plus en plus de proportions.
Votre regard de sociologue, Florence Maillochon?
Oui, peut-être un petit peu plus anciennement, je dirais, à la fin du XXe siècle. Ça a commencé, en fait, ça dépend des milieux, en fait, mais dans les milieux les plus aisés, on voyait déjà tout ce qui allait pouvoir se développer et qui s'est développé aussi sous l'influence du numérique, des réseaux sociaux, qui donnent de l'ampleur à l'image et au côté spectacle du mariage.
Mais qu'est-ce que ça raconte, au fond, ce besoin de spectacle, de spectaculaire, quand on se marie, qui n'était pas le cas il y a un demi-siècle ? Dans la classe moyenne, en tout cas, Florence Maillochon.
Ça raconte notre vie en général, en fait. C'est-à-dire que le mariage n'est qu'un épiphénomène de notre mise en scène permanente de nos vies quotidiennes. Mais le mariage est forcément quand même un moment tout à fait... Enfin, qui se prête au scénario et au faste. Donc, c'est forcément quelque chose
Je pense que ça va prendre de plus en plus d'ampleur. Hein. Moi, je regarde sur les réseaux sociaux le nombre de demandes en mariage qui sont scénarisées. Aujourd'hui, c'est un vrai film, quoi. C'est une fiction. Il faut que ce soit dans un endroit extraordinaire, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait un vrai happening, un flash mob, quelque chose. Mais donc on imagine, si on commence déjà comme ça sur la demande en mariage, les mariages qui vont arriver derrière.
Et bonjour le râteau spectaculaire si la personne dit non.
Guillemette dit sinon.
Sauf que quand c'est demandé devant tout le monde, c'est un vrai chantage, on est obligé de dire oui, c'est l'enfer, quoi. Mais bon, ça, c'est... Non, mais est-ce que c'est pas aussi lié au fait que vous parliez des mariages il y a donc des décennies qui étaient plus des événements familiaux? On a moins envie d'épater la tante Catherine et tonton Marcel. En revanche, aujourd'hui, le mariage est devenu pratiquement une fête d'amis. C'est-à-dire, on invite tous ses potes, espèce de grand réveillon, sauf que c'est pas sous le gui, c'est sous les fleurs d'oranger. Et donc là, les potes, on a envie aussi de les épater, de leur offrir la fête du siècle. Il y a ce côté amical, non, qui rentre en jeu dans le côté spectaculaire.
Oui, et puis le côté démonstration, c'est-à-dire que en fait, c'est pas pour faire couple, en fait, c'est pour montrer son couple aussi. Donc il y a cette volonté de démonstration de son union conjugale, de sa personnalité. Et la présence des amis est très importante, mais aussi parce que les gens se marient beaucoup plus tard à l'heure actuelle. Ils se marient, l'âge moyen au mariage à l'heure actuelle, c'est 37 ans pour les femmes et 39 ans, on en reparlera peut-être. Mais donc c'est vrai qu'il y a un réseau de sociabilité autour de ces personnes, de ces couples, qui n'enlèvent quand même que le mariage reste une fête familiale. C'est-à-dire que c'est un mélange quand même. Et c'est extrêmement rare les mariages où la présence de la famille n'est pas à minimum là.
Récemment, le Figaro a consacré une enquête au mariage qui s'américanise de plus en plus chez les trentenaires, notamment avec des noces sur 5 jours, un dress code pour les témoins, des créations de contenu pour les réseaux sociaux, des mariés de l'an 2025 de plus en plus influencés par les cérémonies XXL des États-Unis. Exemple cité par la journaliste du Figaro, Marie-Gabrielle Le Graffin, je la cite: dîner d'accueil des invités le mercredi, mariage civil suivi d'un vin d'honneur et d'un dîner festif le jeudi, pool party et barbecue le vendredi, mariage religieux, cocktail et dîner le samedi, brunch le dimanche. Et la journaliste de préciser que ces noces n'étaient ni celles d'une riche héritière libanaise ou d'une personne en vue américaine, mais de Manon et Louis, trentenaires travaillant à Paris. Qu'est-ce que ça raconte, cette américanisation de ces mariages, Florence Maillochon?
Ça raconte l'uniformisation de la culture, surtout, et portée aussi par des intérêts commerciaux, je pense. Donc ça raconte ça, ça raconte aussi un milieu social, parce que venir quand même d'un milieu très aisé, pour aussi pouvoir convier des personnes qui sont capables de venir passer 4 jours pour les entourer. Donc ça raconte ça, mais ça raconte aussi que finalement... sous couvert de faire quelque chose de très moderne et très américain peut-être. Mais on revient aussi à des modèles de noces campagnardes de la fin du 19e siècle, où les personnes devaient se dépasser sur plusieurs jours pour se rassembler et donc rester ensemble pendant plus d'un week-end, évidemment. Et
Stéphane Sebon ?
Alors oui, effectivement, là, sur 3, 4, 5 jours, c'est quand même assez rare. Mais
ça reste rare. Hein.
Oui, ce qu'on voit de plus en plus, en tout cas, c'est après la fameuse réception, la soirée, c'est le brunch du lendemain, on garde une partie des invités et ça permet de faire durer le mariage un petit peu plus longtemps, c'est vachement sympa.
Ah oui, c'est très sympa, j'ai connu ça récemment, mais parce que effectivement, nous avions dû, nous les invités, nous déplacer loin pour ce mariage. Donc en fait, c'est vrai que quand on est obligé par exemple de prendre un avion, une fois qu'on y est, on y reste. Hein. C'est-à-dire, il faut qu'on nous amuse, nous les invités, pendant 3-4 jours. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que c'est une question de plus il y a d'invités, plus aujourd'hui les gens sont aux quatre coins de la France et du monde, plus en fait quand on les réunit pour un événement, il faut les réunir longtemps parce qu'ils arrivent de loin. Avant les mariages, en fait, si c'était par exemple dans le village, ben, les gens ne se déplaçaient pas énormément. Aujourd'hui, il y a vraiment réunion de gens venus d'horizons tellement différents. Une fois qu'on les a, on les garde 3 jours. Quoi.
Question de Jean-Laurent Casselli.
Oui, est-ce qu'on invite plus de gens à son mariage qu'il y a quelques années, quelques décennies ? Et est-ce que ça dépend du milieu social ? Est-ce que plus on est aisé, on a un réseau social étendu, plus on invite de gens aussi pour des raisons peut-être diplomatiques, entre guillemets ?
Alors oui, on invite de plus en plus de gens en fait. Alors c'est difficile, on n'a pas des chiffres qui remontent de manière très, très ancienne, mais en tout cas depuis 1970, le nombre de mariages moyens a augmenté. Et ce que les gens qualifient de grands mariages aussi monte dans les extrêmes. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de mariages à l'heure actuelle qui rassemblent 250-300 personnes, et ce qui était plutôt rare dans les années 70. Alors je ne parle pas de temps plus anciens où justement on invitait tout le village, ce genre de choses. Mais en tout cas, sur les 50 dernières années, le nombre d'invités augmente et aussi le nombre de tout petits mariages a diminué, ce qui était une pratique relativement courante dans les années 70.
Guy Méthodicino, vous nous disiez hors antenne qu'à votre mariage, il y avait 250 personnes.
Oui, et pourtant, c'était pas hier. Hein. Donc, je rentre pas dans vos statistiques actuelles.
L'exception.
Oui, il y avait 250 personnes. Mais c'est drôle parce que, en fait, c'est la question aussi de... Je pense qu'on en parlera tout à l'heure, quand on fait les listes des invités. Et il y a d'abord, quand on se marie ou avec quelqu'un qui a une gigantesque famille, ou quand soi-même on a une gigantesque famille, donc ça, vous avez déjà 50 personnes d'emblée. Quand vous avez beaucoup de potes, et voilà, pim, etc. Donc ça grossit assez naturellement. Et après rentre en jeu la question de la diplomatie. Est-ce qu'on invite les collègues de travail ?
M'auriez-vous invité si on s'était connu à l'époque ?
Mais puis, voilà, la question se pose et je laisserai ça en suspens. Est-ce que j'aurais invité à l'IRBI ? Je ne sais pas. Donc, est-ce qu'on invite son patron ? Est-ce qu'on invite ses collègues de travail ? Est-ce qu'on invite les petits amis ? Récemment, j'ai été témoin d'une vexation parce que je connais des jeunes gens qui sont invités à un mariage. Ils n'ont pas le droit d'aller avec leurs petits amis. Parce que, soi-disant, il y aurait du coup trop de monde. Enfin, voyez, bon. Donc, il y a aussi la question de... Et maintenant, comme tout est sur les réseaux sociaux, si vous faites un gros mariage et que vous invitez pas machine ou machin va être super jaloux, va ne plus vous aimer, tout. Donc, en fait, plus vous vous mettez en représentation, plus vous risquez de vexer les autres, donc plus le nombre d'invités grossit.
Florence Maillot.
Oui, vous avez tout à fait raison de souligner tous ces problèmes, en quelque sorte, de constituer la liste de mariage, qui est un enjeu fort et vraiment une préoccupation très, très importante pour les mariés.
Ça peut contribuer au ratage du mariage,
aussi,
hein,
mauvaise liste. Et puis qui s'inscrit dans des transformations démographiques, c'est-à-dire que cette augmentation du nombre de mariages, elle est liée aussi aux transformations des familles, c'est-à-dire que les familles sont souvent recomposées, donc ça augmente structurellement le nombre de mariages. Mmh. Et comme les gens se marient plus tard, et que une des règles pour trouver la bonne limite entre ceux qu'on invite et ceux qu'on n'invite pas, c'est de rassembler ceux qui comptent. En fait, comme les jeunes sont de plus en plus vieux, en quelque sorte, à se marier, en fait, ils rassemblent des amis de plusieurs époques de leur vie. Et donc, quand on remonte de la maternelle aux toutes les études, tous les stages et aux derniers emplois, ça fait beaucoup de monde, en effet.
Alors, pour ne pas rater son mariage, Stéphane Sebon, mieux vaut réserver, choisir la meilleure salle de réception ou restaurant possible. C'est une étape essentielle, évidemment. Comment ne pas se rater, Stéphane Sebon ? Quels sont vos conseils ?
Bon, je crois qu'en général, une salle de réception, c'est un coup de cœur. On en visite pas mal, mais c'est souvent la première qui a attiré notre attention qu'on va signer. Bon, bien sûr, c'est l'élément fédérateur hein, qui va dire, voilà, cette date-là est possible, donc on va se marier à cette date-là et on peut commencer déjà à faire les save the date. Donc oui, la salle de réception, c'est vraiment le gros du morceau. On commence vraiment à se dire, ok, on est rentré dans le mariage à partir du moment où on a booké la salle.
Florence Maillochon.
Non, ce que je note en fait, c'est la contamination du discours amoureux pour expliquer les festivités du mariage en fait. Il faut avoir, on se marie par amour, mais il faut avoir des coups de cœur aussi pour la salle, il faut avoir un coup de cœur pour la robe, etc., etc. Donc c'est pas simplement pour son épouse, c'est beaucoup de coups de cœur en fait un mariage.
Et les futurs mariés sont évidemment en quête d'originalité, de lieux les plus singuliers possibles, ou alors ils sont plus conformistes qu'on ne le croit, Stéphane Seban.
Oui, ils sont plus conformistes, bien sûr. On voit dans les allées du salon des gens qui ont réservé un cirque pour se marier avec les artistes qui vont avec. Donc bon, ça arrive, hein, effectivement. Mais enfin, on a envie d'un manoir, d'une petite maison à la campagne avec un petit extérieur. Ou alors simplement une salle de réception classique.
Hein. Et puis dans un mariage, souvent, il n'y a pas besoin de clowns. Là. Les tontons et les, les grands-pères s'occupent très bien de ça.
Florence Maillochon, les exigences esthétiques des mariés sur le lieu du mariage sont de plus en plus élevées. Il est essentiel pour les mariés que les noces se déroulent dans un beau cadre instagrammable à souhait.
Mais oui, en fait, il y a une esthétisation des noces très importante qui est liée, je pense, effectivement à l'augmentation du visuel en fait dans nos vies quotidiennes. Mais vraiment, en fait, le plus beau jour de la vie, en fait, il doit être pris au sens premier en fait du terme, au premier degré en fait, c'est-à-dire que c'était pendant longtemps un symbole pour dire bon bah voilà, c'est une rencontre, c'est un avenir rose qui s'ouvre à nous, et en fait maintenant il est vraiment au premier degré et non seulement au premier degré, mais c'est-à-dire que c'est non seulement le cadre, mais chaque moment en fait doivent être esthétisés, chaque détail.
C'est épuisant, non?
C'est épuisant, je pense, et c'est coûteux et c'est très préoccupant, mais c'est normal parce que en fait, c'est pas simplement le moment qui compte, c'est vraiment l'ensemble du cadre. Et tout est photographié. Et tout est porté à la postérité. Donc, effectivement, on ne peut pas se laisser aller à l'imprécision. Tout va être retenu.
Il est de plus en plus rare de se marier chez soi, sauf si on habite dans un manoir ou un château. C'est rare hein, de se marier chez soi.
C'est rare, mais pour aussi des questions de taille d'espace. C'est plus fréquent aussi parmi les personnes les plus aisées qui ont des domaines ou des grandes maisons où elles peuvent installer des tentes.
Oui, effectivement.
Évoquons le métier de wedding planner, d'organisateur, d'organisatrice de mariage. C'est un métier qui apparaît en France au début des années 2000. Je parle sous votre contrôle,
oui,
Florence Maillochon. C'est un métier importé des États-Unis. De quoi s'occupe exactement une wedding planeur, planeuse, Stéphane Seban, est-ce que ça évite de rater son mariage, de faire appel à ce type de service?
Ben,
il
oui,
propose du sur-mesure. Hein.
Non, mais effectivement, là, comme disait Florence, on rentre vraiment dans un vrai déroulé, avec un vrai timing, c'est un vrai événement, et un vrai événement, ben, ça se professionnalise d'une certaine manière, donc ça demande d'avoir des gens compétents. Donc le wedding planner, c'est un métier qui est en plein boom. Hein.
Et c'est un service qui n'est pas proposé qu'aux plus fortunés, c'est un service qui s'est vraiment démocratisé.
Alors oui, ça s'est démocratisé. Effectivement, avant, c'était dans les très très grands mariages avec un très gros budget. Maintenant, on est quand même dans des mariages relativement aisés hein, qui utilisent les services d'un wedding planner puisqu'on a un budget de 3-4 000 euros sur un mariage de 15 000 en moyenne. Donc 3-4 000 euros en plus pour un wedding planner, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Hein.
Il y a certains de nos auditeurs qui doivent sursauter à l'idée qu'on fasse appel à un wedding planner pour organiser son mariage.
Pour le stress surtout, le stress du jour J, hein, d'avoir à faire le chef d'orchestre entre tous les prestataires, le traiteur, l'animateur, le DJ, le photographe, le machin, c'est vachement compliqué. Et on a envie de profiter de la fête. Donc oui, c'est bien d'avoir quelqu'un de délégué.
Florence Maillochon.
Oui, il faut être créateur d'événements pour faire un mariage à l'heure actuelle. Donc, on comprend bien que ça se professionnalise. Moi, les premières wedding planeuses que j'ai rencontrées au début des années 2000 étaient d'anciennes mariées qui avaient beaucoup investi pour organiser leur mariage à une époque où justement les noces commençaient à prendre beaucoup d'ampleur et qui voulaient partager leurs leur connaissances et puis qui se sont professionnalisés progressivement. Mais c'est vrai que c'est un métier compétent parce qu'il faut gérer des budgets, il faut avoir plein de planning, il faut faire des tas de choses ensemble, donc c'est un gros travail.
Nous avons d'ailleurs au téléphone une wedding planeuse, une organisatrice de mariage, Pauline Colucci, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous exercez dans le 77, en Seine-et-Marne. Racontez-nous un peu en quelques mots votre métier. Et est-ce que vous êtes parfois, comme dans le sens de la fête, confronté à des futurs mariés un peu casse-pieds?
Alors, le métier de wedding planner, c'est un métier qui se fait de passion. Hein, clairement, c'est un métier de passion qu'on fait avec amour parce qu'il faut aimer les gens, faut aimer les mariés, faut aimer les accompagner, rentrer dans leur intimité, les découvrir, s'inspirer d'eux pour vraiment leur proposer un mariage à leur image et pour pouvoir être au bon niveau d'accompagnement. Puisque chaque marié décide d'être accompagné à différents niveaux, hein, juste pour la coordination du jour J, ou bien du début à la fin de l'organisation, ou bien clairement ils vous laissent carte blanche et ils arrivent juste le jour J et ils découvrent leur mariage comme une surprise. Donc ça dépend vraiment de chaque couple.
Et les casse-pieds alors? Parce que...
Les casse-pieds, il y en a, mais je dirais qu'il n'y a pas vraiment de vrais casse-pieds. Je pense que... Chacun a son niveau de stress, chacun a son niveau d'exigence, chacun a ses souhaits. Et le rôle de la wedding planner, c'est pas de dire « oh, il est casse-pied », c'est vraiment de dire « comment je vais pouvoir l'accompagner pour que justement il ne soit pas casse-pied et qu'il soit libre d'esprit et serein ».
Florence Maillochon, votre regard sur ce que vient de nous dire Pauline?
Oui, mais c'est un travail de délégation, en fait, de la charge mentale hein, qui permet de libérer surtout les femmes, les futures épouses qui organisaient auparavant leur travail de mariage.
Restez avec nous, hein, Pauline, pour nous donner quelques conseils. Guillemette, oui?
Non, ça m'intéressait de poser une question à Pauline, parce que effectivement, vous êtes donc délégué, mais comme c'est un jour d'une intimité folle, comment vous faites la part entre effectivement préparer à la place, mais sans pour autant quand même confisquer toute l'intimité de ce jour au marié? Enfin, ça doit être un dosage assez compliqué, non?
Alors le dosage se fait en fonction de chaque couple. C'est pour ça qu'avant tout lancement de projet, on fait un rendez-vous découverte où je leur pose plusieurs questions pour vraiment comprendre qui ils sont et ce qu'ils recherchent vraiment, afin vraiment de m'adapter à ce qu'ils veulent. Oui. Il y en a qui veulent absolument tout gérer et rester dans le contrôle de toute l'organisation, et moi je suis juste en support pour leur donner des conseils et valider ou non leur choix. Même si en soi, c'est eux qui ont le mot final. Et puis, il y en a qui me donnent leur confiance absolue. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un bon feeling avec sa wedding planner. Et qu'en tant que wedding planner, on ne prend pas des mariés avec qui on n'a pas de feeling. Mmh.
D'accord. Okay. Alors, Florence Maillochon, quand on n'a pas les moyens de faire appel à un organisateur, une organisatrice de mariage, eh bien, on peut faire un rétro-planning soi-même. Et vous donnez dans votre livre un cas de rétro-planning particulièrement précis, à J-1 an. C'est assez, c'est très précis et c'est ultra effrayant quand même.
Oui, on trouve ça sur les réseaux. En fait, on trouvait ça déjà à la fin des années, enfin au début des années 2000 sur des blogs ou des sites de mariés. Et puis ça.
Je vais citer quelques lignes. J-1, rencontre des parents, fixer une date, fixer un budget, contacter le wedding planner si on en a un, commencer à réfléchir au modèle de la robe de mariée, envoyer les save the date à J-10 mois, aller essayer les costumes de mariée, chercher un DJ ou un orchestre à J-8 mois, se renseigner sur les lieux d'hébergement aux alentours de votre lieu de réception à J-1. Enfin, il y a 4 pages comme ça.
Oui, c'est 4 pages et puis avec des temporalités différentes, effectivement, et puis des choses qui ne se font pas de manière séquentielle, sinon ça serait trop simple. Il faut avoir tout en tête, tout le temps. Et donc, c'est pour ça, c'est un travail de créateur d'événements, donc d'un créateur de projet.
Mais on va forcément se rater si on suit à la lettre ce rétro-planning
précis. Mais non, justement, c'est un guide pour... c'est une liste pour ne rien oublier, mais justement, il faut avoir en tête et anticiper. Donc, c'est vraiment un travail de meneur de projet. Donc j'insiste sur ça parce que c'est typiquement des compétences professionnelles que les hommes aiment bien avoir dans le cadre du travail. bizarrement, ils ne font pas ce genre de travail quand il s'agit de la sphère domestique et du couple.
Donc, vous l'avez constaté au cours de votre enquête, vous avez interviewé combien de mariés ?
Là, il y avait 50 couples interrogés, mais aussi c'est fondé sur d'autres statistiques sur beaucoup plus de gens. Donc c'est vraiment des compétences qui sont étiquetées comme masculines quand on est dans le monde professionnel. Mmh. C'est le travail de Stéphane. Mais dans la sphère privée, ça tombe dans le pour les femmes, quoi.
Stéphane Seban.
C'est exactement ça. Moi, je les vois arriver au salon. Ils sont en train de traîner leur futur époux. On sent qu'il a pas envie d'être là. c'est bien. Elle le laisse un petit peu tranquille au moment où elles vont essayer leur robe, parce que bien sûr, il faut pas la voir. Mais oui, effectivement, ça reste une compétence féminine, l'organisation.
Dans le cadre du mariage hétérosexuel.
Oui, bien sûr.
Guillemette.
Non, mais justement, j'allais dire que oui, il n'y a pas que monsieur, madame, etc. Et puis, il n'y a pas que, même si effectivement c'est de plus en plus le cas, il n'y a pas que des mariés qui ont 37 ans et demi. Enfin, je veux dire, moi j'ai une fille, un fils, je suis désolée, mais la wedding planeuse du machin, ça va être moi. Désolée, Pauline. Je ne remonte pas forcément au 19e siècle en disant qu'il y a aussi des parents qui contribuent à préparer le mariage de leurs enfants. Et puis, tous ces rétro-planning, ce qui me fait super rire, c'est qu'on peut faire un rétro-planning parfait. Mais si on a des crétins à son mariage, la fête est pourrie et voilà. Hein. Donc c'est pas non plus qu'une question d'organisation, c'est inviter vraiment des gens qu'on aime et que ces gens-là soient heureux d'y être et que même s'il y a 2-3 ratés dans l'organisation, ce qui compte c'est quand même un moment célébré. Pas simplement l'amour du couple, mais célébrer une entente générale, quoi. Et tant pis si les petits fours sont un peu cramés. Hein.
Pauline, vous avez vu, Guillemette Odissino veut vous piquer votre travail.
Allez, les belles mamans ont toujours envie de prendre un rôle important, et c'est pour ça que c'est aussi important de les impliquer, parce qu'elles
participent. Allez, il est 11h moins le quart, l'heure de retrouver les Français mode d'emploi de Jean-Laurent Casselli.
Regardez ce nom, regardez.
Quand bien vous fasse.
C'est net, c'est silencieux, il n'y a pas de fumée. C'est un Français.
Ali Rebéi.
Tu peux pas faire la queue comme tout le monde ? Abruti, crétin, cocu !
Sur France Inter.
C'est ça les Français.
Alors, Jean-Laurent Casselli, ce matin, vous nous parlez encore de nourriture.
Oui, je sais, Ali, ça devient un peu une habitude ici. Hein. Vous vous souvenez que juste avant Noël, je m'étais demandé si la truite fumée n'était pas le nouveau saumon. Désolé, j'en ai pas tout à fait terminé avec le rayon traiteur de la mer. Figurez-vous que j'ai encore des choses à dire à son sujet, parce que vous l'avez probablement remarqué dans les rayons réfrigérés de votre supermarché, aux côtés des poissons fumés, du surimi. Il y a un segment un petit peu fourre-tout, segment qui grossit à vue d'œil à force d'accueillir des nouveautés, avec ou sans poissons d'ailleurs. Tarama, miettes de thon, fromage frais, mais aussi guacamole, houmous et petits blini pour tartiner tout cela. Dans le jargon de l'agroalimentaire, c'est ce qu'on appelle le segment des tartinables. Alors ne cherchez pas, Ali, dans le Larousse ni dans le Robert. On y a intronisé ces dernières années des mots comme éco-anxiété, tiktoker ou boboisé, mais nulle trace du mot tartinable, dont je vais donner une définition officielle pour la première fois à la radio. Ouvrez les guillemets et considérez comme tartinable, toute préparation alimentaire faite pour être tartinée et uniquement pour cela. J'insiste, parce que ça permet de distinguer le tartinable du beurre. Le beurre se tartine, me direz-vous, certes, mais je dirais que c'est un tartinable par destination et non par nature. Et puis, ajoutons qu'il y a des tartinables sucrés, le fameux Nutella et ses concurrents. Mais aujourd'hui, je me concentre plutôt sur les tartinables salés, ceux qu'on achète pour l'apéro.
En tout cas, ces tartinables ont vu leur vente fortement augmenter ces dernières années.
Et oui, plusieurs raisons à ce succès phénoménal. Tout d'abord, l'innovation. Rillettes de maquereau, poivre noir, courgettes, des pouilles aux chèvres doux et basilic citron, houmous aux tomates séchées, fromage frais breton, poivre de Teddy Chéri, je ne savais même pas que ça existait, guacamole aux fèves ou aux algues qui remplace l'avocat très gourmand en eau. On pourrait poursuivre cette liste à l'infini. Les rayons des super et des hypermarchés accueillent chaque semaine de nouvelles recettes, de nouveaux packaging. Résultat, une inflation de produits et de références en magasin. Selon les données de l'Institut Circana qui compile et analyse les tickets de caisse de la grande distribution, c'est en fait toute la séquence de l'apéritif qui bénéficie de l'engouement des Français, les tartinables, mais également les saucissons, les crudités ou encore ces bonnes vieilles chips qui ont le vent en poupe avec ce qu'on appelle un effet de gamme, c'est-à-dire que plus il y en a, plus les gens en achètent. J'ai vérifié hier dans ma petite supérette, il y avait des chips goût bacon grillé, des chips saveur tartiflette, des chips à l'aïoli ou même des chips saveur pastis. sans alcool.
Ah bon ?
Voilà. Que l'on plongera dans un bol de houmous de betterave ou pas. Deuxième explication du phénomène, les tartinades marchent aussi bien parce que c'est appétissant. Ils sont appétissants et pas trop chers. On tourne généralement autour de 2 à 3,50€ le contenant. En période d'inflation, le tartinade devient donc ce petit produit plaisir qui reste sous la barre psychologique des 4€. Et tant pis pour la barquette en plastique ou pour le Nutri-Score, souvent plus proche de la fin que du début de l'alphabet. J'en viens enfin à l'explication la plus structurelle, quasiment anthropologique de ce succès des tartinables. Un peu comme le désert qui avance dans la chanson de France Gall, le tartinable gagne du terrain là où le repas structuré, lui, a tendance à reculer. L'apéro dînatoire remplacerait progressivement la trilogie entrée-plat-dessert. Et ça, c'est une évolution profonde qui dépasse la seule question du guacamole. D'ailleurs, pour coller aux évolutions des modes de conso, notamment au fameux snacking, les marques et distributeurs ont tendance à évoluer et à proposer de plus en plus de produits prêts à l'emploi, ce que l'Institut Nielsen IQ, qui a réalisé une étude sur le sujet, nomme des produits micro-ondables. Voilà, ça fait beaucoup de mots en able. Reste une question, Ali. Peut-on associer apéro dînatoire et consommation nomade ? En d'autres termes, les tartinables sont-ils sandwichables ? Eh bien, pique-niquables. Réponse dans une future chronique.
Et est-ce qu'on peut servir des tartinables à un mariage, Stéphane ? Parce que c'est vrai que un buffet, un repas de mariage raté, un banquet raté, hein, ça laisse des traces quand même sur le souvenir qu'on a du mariage.
Ça peut laisser des traces, mais enfin bon, comme on s'y prend un an à l'avance, en général on a envie d'un traiteur, quelqu'un qui nous fasse des petits fours, des choses sympas. Non, on ne passe pas sur les tartines, ça c'est un truc qu'on ne fait plus.
Quelles sont les erreurs à éviter justement du point de vue du banquet du mariage ?
L'erreur, c'est déjà d'inviter les mauvaises personnes. Hein. C'est un petit peu comme le dressing. Hein,
Dans le
contenu de l'assiette. Bon, aujourd'hui, on va privilégier de plus en plus le buffet dînatoire. Hein. Mm-hmm. Finalement, c'est les invités qui vont servir toujours au buffet. Alors, ça, quand même, un gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de faire le plan de table. Ouais. Tout le monde s'assoit là où il veut. Et ça, c'est pas mal parce que le plan de table, c'est un vrai casse-tête et c'est sûr de se fâcher avec tout le monde.
Tous les épisodes des Français Mode d'Emploi sont à podcaster sur l'appli Radio France.
Gros bien vous fasse.
Je ne sais pas de votre côté, mais pour nous, rien qu'avec la famille et les amis, il faut compter au moins 250 personnes.
Ali Rébi.
Excusez-moi.
Et pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre.
Sur France Inter.
Comment réussir son mariage, c'est notre thème ce matin, en compagnie de la sociologue Florence Maillochon, avec l'organisateur de mariage Stéphane Sebin et avec la journaliste Guillemette Audicino. Tiens, justement, votre mariage, vous étiez dans une belle robe de mariée choucroutée. Hein, j'ai vu la photo.
Oui, ça, parce que ça fait longtemps que je vous dis que je me suis mariée en meringue. Mais c'est vrai, j'avais la robe blanche, le long voile blanc, des fleurs et dans les cheveux et à la main.
Qu'est-ce qui a fait la réussite de ce mariage, justement?
Mais d'abord, j'étais très amoureuse de mon mari, quand même, c'est la base. Moi, j'ai fait un mariage de village. Parce que je me posais la question aussi maintenant, est-ce qu'on se marie encore dans la ville de la mariée? Ce genre de régionalisation, est-ce que ça existe encore? Parce que moi, je me suis mariée dans le village où je passais mes vacances petite fille, donc dans un décor. C'était pas un décor instagrammable, mais c'était un décor qui était très important à mes yeux, à mon cœur. Les gens se sont déplacés pour ça, parce qu'ils savaient que ce lieu me tenait à cœur. Enfin, en fait, ce qui a fait la réussite de mon mariage, je crois que c'était très sentimental, dans tous les sens du terme.
Tiens, autour de la table, qu'est-ce qu'un mariage réussi et quels sont vos conseils pour ne pas rater cette fête de mariage, Stéphane Sebin ?
C'est inviter les bonnes personnes. Hein. Finalement, c'est inviter les bonnes personnes parce que le succès d'un mariage, c'est l'amour qu'il y a autour du couple. Hein. Donc finalement, si ce sont des gens qu'on voit régulièrement, c'est un peu comme les vêtements qu'on a dans son dressing, si on les a pas mis depuis un an, c'est qu'on risque pas de les mettre, il vaut mieux les donner, les jeter, les revendre sur Vinted. Bon, là, c'est un peu pareil pour les invités, il faut que ce soit des gens qui soient proches de vous et qui aient envie de faire la fête et qui partagent vraiment votre amour l'un pour l'autre et cette envie de concrétiser les choses.
Et quelles sont les erreurs à éviter, les erreurs récurrentes que vous voyez, vous qui organisez des salons de mariage très régulièrement?
C'est de prendre un petit peu de distance surtout, c'est de prendre de la distance dans l'organisation, parce que c'est vrai que le syndrome de Bridezilla...
C'est quoi ça, rappelez Florence Faillochon, là.
Oui, Bridezilla. Oui, c'est une invention aussi.
C'est la contraction d'un mot anglais,
de Bride et de marié. Godzilla, en fait, voilà. Donc ce monstre que vous connaissez tous, donc qui désigne en fait cette transformation de la la future mariée qui prépare son mariage en un monstre hystérique, en quelque sorte, parce que trop préoccupée par l'organisation de son mariage, donc qui mène un train d'enfer à son entourage, qui ne parle que de ça, et qui surtout souffre. En fait, on oublie très certainement que c'est que, en fait, cette transformation de l'hystérie, c'est souvent une grosse souffrance à la base, parce qu'une surcharge de travail. Hein. Donc, il faut effectivement ne pas tomber dans
le burn-out des futurs mariés. Voilà.
Alors, vous êtes sociologue, Florence Maillochon, mais est-ce que vous auriez quand même un conseil à donner aux futurs mariés pour qu'ils réussissent ce jour exceptionnel pour eux?
Alors, peut-être de revenir au sens de la fête, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où l'image est très importante, et en fait, pour le mariage comme pour le reste de la vie, mais peut-être que faire un pas de côté sur cette volonté d'en mettre plein la vue, de réussir tout, d'être dans la perfection, jusque dans les moindres détails, est un peu exagéré, parce que finalement, les gens sont là pour faire la fête, justement, et pas que pour s'émerveiller devant autant de beauté, de grâce et d'harmonie.
Guillemette Odissino.
Oui, je pense que c'est exactement, vous savez, quand vous faites un voyage touristique et qu'à la fin vous dites « mince, en fait j'ai passé mon temps à prendre des photos, j'ai même pas profité ». Bah, en fait c'est un peu ça. Un mariage, je pense qu'il faut pas l'estimer comme un spectacle, il faut l'estimer comme un moment à vivre.
Tiens, comme dans ce film de Mike Newell.
Ah oui, bah là il y en a des moments de...
On termine avec 4 mariages, un enterrement. C'est incontournable, évidemment, Guillemette Odissino. Vous teniez à nous parler de ce film qui est devenu un classique du genre.
Ah oui, c'est devenu un classique de la comédie romantique, évidemment. Mais c'est, en fait, ce qui est très beau dans ce film-là, c'est que, donc, comme son nom l'indique, 4 mariages. Donc, en fait, avant que le couple principal, qui ne cesse de se croiser dans tous les mariages précédents, finissent par s'avouer son amour, on a affaire à une petite ronde de mariages très différents. Le mariage le plus pourri, le mariage le plus punk, le mariage le plus traditionnel en mode Diana et Charles. Enfin, et en fait, c'est marrant parce que c'est un vrai catalogue. À la limite, pour vous détendre, les futurs mariés, re-regardez cette comédie. Comme ça, vous verrez d'abord quel style vous voulez choisir ou quel style vous détestez vraiment. Et surtout, ce qui compte, parce qu'en fait, ça finit par une non-demande en mariage, ce film aussi. Ce qui compte, c'est que vous vous aimiez et que ce soit peut-être votre enterrement qui soit le mieux réussi.
Vous m'avez donné très envie de le revoir. Pauline Colucci, pour terminer, on a une poignée de secondes. Votre conseil pour ne pas rater son mariage?
Je dirais que c'est votre mariage, c'est votre rêve, et profitez de votre journée parce que ça passe en un claquement de doigts, donc déléguez toute l'organisation à vos amis, à une wedding planner, mais profitez puisque c'est vraiment un moment à vivre et pas à regarder de loin.
Merci beaucoup Pauline Colucci, merci beaucoup Florence Maillochon. Je recommande la lecture de votre livre qui n'a pas perdu en actualité, ça s'appelle La passion du mariage, c'est publié au PUF. Merci beaucoup Stéphane Seban, le prochain salon du mariage, ce sera en septembre prochain.
Tout à fait, les 13 et 14 septembre à la Porte de Versailles.
Merci beaucoup Guillemette Odissino. On peut lire votre interview de l'excellente Laura Felpin dans le Télérama de cette semaine.
Absolument, grâce d'ailleurs à une comédie romantique qui s'appelle L'amour, c'est surcoté. Je vais vous laisser là-dessus.
Et on se retrouve, nous, demain dans Grand Bien vous fasse.
Oui, à demain. Allez.
Grand Bien vous fasse est un podcast France Inter.